I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et bonsoir.
Salut.
Comment ça va depuis 24 heures, les gars?
Je suis entre l'excitation et la dépression.
Manuel ?
Oui ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va depuis qu'on sait qu'on va tous peut-être devenir accro à l'ordinateur spatial ?
Très très bien, très très bien, j'ai hâte.
C'est dans longtemps. Hein.
Dans longtemps, c'est relatif.
C'est dans longtemps, parce que pour mettre un contexte, donc Apple vient de présenter son casque de réalité mixte. Donc il fait à la fois de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Ça coûtera 3 500 $, mais le problème, c'est surtout que ça sort début 2024 pour les US. Donc on n'a pas d'infos pour l'Europe.
Ça s'annonce être, je pense, le meilleur outil de travail.
Donc 3 500 $ plus un billet d'avion.
3 500 $ plus un billet d'avion, plus, parce que moi je suis myope, les adaptateurs, là, les lentilles Zeiss, qui à mon avis
vont pas
être données.
Bon.
Bah après, tu peux garder tes lunettes, c'est juste que c'est moins confortable.
Non, c'est pas fait pour.
Oui, je sais, mais.
Ah bah, ce sera vraiment moins confortable.
Bah, disons qu'on va on va repérer si t'as mis ton casque au bureau, en fait.
Je crois que. Ah, c'est pour ça que tu me disais qu'il fallait que j'ai des lentilles.
Oui.
Écoute-moi bien, jamais de la vie.
Bah, si, ça
tient. En fait, Léo a une phobie d'avoir un truc bloqué dans l'œil ou de pas pouvoir le.
Il n'a pas qu'une phobie, hein.
Non.
Et pas bloqué que là, d'ailleurs.
Non. On peut reparler du casque.
Oui. Non, mais ce qui est fou, c'est que tu viens de dire réalité mixte avec la réalité augmentée, réalité virtuelle. Mais c'est quand même pas la première fois qu'on en entend parler. Meta a fait son rachat au départ de l'Oculus pour donner là le MetaQuest Pro 2, d'ailleurs, qui est le casque de réalité virtuelle le plus puissant du marché.
Qui était,
voilà, jusqu'en janvier 2024, en tout cas aux US. Et là, tout comme vous, j'ai l'impression d'avoir assisté, et je pense que j'ai assisté, à une révolution.
Alors est-ce que tu peux faire un petit résumé.
Ouais, j'allais dire
pour ceux qui n'ont pas trop suivi,
pour que les gens visualisent un peu. En gros, vous enfilez un casque et vous avez devant vous, dans votre espace, c'est-à-dire qu'il y a plein de caméras, donc vous voyez toujours votre pièce, mais devant vous, vous avez des fenêtres qui s'affichent avec des applications. Ça peut être vos messages, ça peut être Safari avec une vidéo YouTube, ça peut être une application de productivité, et vous pouvez interagir avec en pinçant vos doigts et en regardant. Il y a un tracking de l'œil qui est fait pour en gros déplacer votre souris, on va dire. Si vous regardez en haut à gauche et qu'il y a l'application YouTube, vous cliquez avec vos doigts, naturellement, en fait, il n'y a pas de manette, il n'y a pas de contrôleur, tu pinces tes doigts dans le vide. D'ailleurs, tu n'as pas besoin d'avoir ta main levée, hein, elle peut reposer sur ta jambe. Tu passes ton doigt et ça clique sur l'application.
Juste parce que tu as regardé l'application.
Juste parce que tu l'as regardé. Il y a un suivi de l'œil, ça c'est ta souris. Et puis après, avec tes mains, soit tu slides en levant deux doigts, soit tu cliques dans le vent.
Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en misant tout, encore une fois, sur l'expérience utilisateur, c'est là où ils réinventent un marché. Parce que j'ai testé avec l'Oculus, notamment, il y a déjà ça quelques temps, le fait de pouvoir dupliquer l'écran de mon Mac avec une application que j'avais installée sur mon Mac. Je dupliquais l'écran dans le casque de réalité virtuelle pour utiliser mon environnement de travail dans un autre environnement. Je me retrouvais dans un appartement virtuel, à la plage, et puis j'avais mon ordinateur qui reflétait la même image en temps réel dans le casque. Ultra chiant, parce que du coup tu vois pas ce que tu tapes au clavier, tu ne vois pas tes mains et ta gestuelle en même temps. J'ai l'impression qu'ils ont réinventé un truc, quoi.
Je pense surtout qu'ils ont fait un choix. Et comme d'habitude, on disait mais quand est-ce qu'Apple va arriver là-dessus, etc., etc. Et ils ont pris le temps de réfléchir.
Ouais.
Moi, le choix que j'adore dans le produit qu'ils proposent, c'est justement qu'ils ne sont pas allés dans la réalité virtuelle. En fait, ils permettent à l'utilisateur de doser la quantité de virtualité qu'il veut. C'est un casque à travers lequel tu vois. Donc,
mais il n'est pas transparent. Il est opaque. C'est les caméras qui te permettent de voir.
Ouais.
On pourrait presque imaginer que c'est une, si vous l'avez pas encore vu et que vous écoutez cet épisode, on pourrait presque dire qu'il se comporte comme une visière.
Ouais, clairement.
Donc tu vois à travers, tu vois ta pièce, tu définis la quantité de dose virtuelle que tu veux. Donc est-ce que tu veux tes SMS en haut à droite, tout en regardant ta belle-mère à gauche? Est-ce que tu veux faire disparaître ta belle-mère et te mettre dans un monde immersif avec une image autour de toi?
Tu peux choisir de te mettre dans une scène en pleine forêt et tu définis à quel point c'est immersif. T'as une couronne qui se tourne sur le côté pour mettre juste devant toi une petite forêt, ou alors vraiment pour t'immerger complètement dedans, et là même si tu regardes derrière toi, t'es toujours dans la forêt.
La même que sur les AirPods Max.
La digital.
Exactement.
Et ça a été, enfin, moi encore, je suis amoureux de toutes les sensations de toucher sur ces produits-là. On l'a vu dans la conférence, ils te font ressentir chaque bruit, chaque clic. Tu sens que le produit a été travaillé, mais...
Oui, il y a un truc que j'ai pas bien capté, parce que je vois l'application génialissime en avion.
Ouais.
C'est-à-dire que bah là, tu t'en fous de la taille de l'écran en face de toi, en fait.
C'est incroyable.
Tu mets ton casque sur les yeux, t'es immergé dans ton film, en fait. Tu peux même définir, si tu vois ton film dans une fenêtre en face de toi, et tout autour, tu te mets dans un paysage, en fait.
C'est l'autonomie qui restera en suspens.
Ouais, il y a l'histoire de la batterie externe, puisqu'ils ont choisi de ne pas mettre le poids de la batterie dans le casque, mais de te le déporter dans ta poche.
Autonomie de 2 heures. En revanche, vous pouvez brancher la batterie sur secteur pour avoir là une autonomie illimitée.
Ok. Mais ce que j'ai pas bien compris, c'est le son.
T'as des speakers au niveau de l'oreille.
Ouais, sur les tempes.
Ouais.
Un peu. Mais du coup, l'application dans un avion, du coup, t'as pas de réduction de bruit, quoi.
Tu mets tes
AirPods. Tu les connectes aux AirPods.
Ah, donc tu rajoutes tes AirPods par-dessus, en fait.
Alors, je conseille plus les AirPods que les AirPods Max qui vont encore rajouter du poids.
Parce qu'au bout d'un moment, on va faire de la muscu pour le coup, en fait.
Mais juste les AirPods, ça fonctionne.
Il y a eu une image là qui était sur Twitter avec une personne où on l'imaginait avec le Apple Vision Pro plus le Dyson
Zone
avec le masque devant. Tu te dis, tu ressembles plus à rien là.
Moi, dans l'avion, je préviens, en 2024, je ressemble à ça. Hein. On ne voit plus un centimètre de ma peau.
Bah, y a des gens que ça peut arranger. Hein.
C'est-à-dire bah, ce que tu veux dire par là, Manuel?
Je veux dire que...
Par des gens, tu entends qui?
Des gens moches.
Ouais.
Voilà.
Précise ta pensée.
Très, très pratique, cette quantité de device qui vient de se greffer sur le visage des gens.
C'est pas visé?
Non.
D'accord. Il y a un truc... sur lequel il se différencie vraiment, c'est que jusqu'ici, tous les casques avaient ce rendu un peu bizarre et cette barrière sociale qui fait que quand tu portes un casque, comme c'est opaque, bah en fait, on voit pas ce que tu fais, on voit pas si tu vois l'extérieur, on voit pas tes yeux, en fait, on voit juste un casque noir ou un casque blanc.
Ouais.
Là, dans le prix, ils pouvaient l'inclure, il y a très peu de casques qui peuvent faire ça, et même technologiquement, c'est assez impressionnant. De l'extérieur, on voit tes yeux. On voit pas vraiment tes yeux parce qu'on l'a dit, c'est opaque. Mais en fait, ils ont mis un écran, une sorte d'écran OLED.
C'est incroyable.
Avec une représentation de tes yeux en temps réel. Parce qu'il y a plein de trackers à l'intérieur du casque qui forcément surveillent tes yeux pour savoir où tu regardes.
On dirait que t'es un peu dans un aquarium hein, quand tu regardes la
pièce. C'est un peu étrange.
On va s'y habituer.
C'est un peu fake, c'est un peu étrange. Mais c'est une représentation réelle, en direct, de tes yeux. Ce qui est très important pour des mesures déjà sociales. Parce que forcément, si tu regardes quelqu'un qui est en train de discuter avec toi, c'est cool qu'il voit où se pose ton regard. Et surtout pour des mesures de sécurité. Parce que du coup, on fait la différence entre quand t'es dans un environnement complètement virtuel et quand tu vois l'extérieur. Donc ça fait toute la différence. Et je trouve que c'est hyper différenciant et c'est assez impressionnant technologiquement.
C'est là où ils ont cassé cette barrière sociale. Et c'est pour ça qu'ils peuvent le vendre comme un ordinateur. C'est parce qu'ils se disent, bah, comme un iPad ou comme un MacBook, si tu le tournes un peu de côté, bah, tu peux quand même parler à l'interlocuteur qui est en face de toi et faire une réunion. Bon, j'imagine quand même très peu, demain, 6 personnes autour d'une table avec l'Apple Vision Pro et se parler dans un meeting de façon totalement classique.
Moi, j'ai hâte de faire des FaceTime avec.
Alors, les FaceTime, du coup, comment ça fonctionne? Je suis pas sûr que ce soit le meilleur usage. Mais en gros, comme on a fait au tout début une représentation de ton visage en 3D, du coup, la première fois que tu le portes, on te crée un avatar. Et quand tu fais un FaceTime, bah, tu vois la caméra des gens dans l'environnement. Tu peux l'agrandir, le rétrécir, le mettre absolument où tu veux. Il n'y a pas de caméra qui est portée sur toi, mais par contre, on anime ton avatar en fonction de la voix et de ton regard.
Et oui, puisque le casque capte ton regard. Donc en temps réel, il a juste le regard de ton avatar.
Ça a plus de gueule que ce que fait Facebook.
Ah oui, ça c'est sûr.
C'est certain. Mais c'est un peu étrange parce que c'est pas vraiment toi. C'est pas une visio de toi.
C'est une représentation de toi.
Ouais.
Mais ça doit être top d'avoir un casque avec le FaceTime dans un coin, un Apple Notes ouvert dans l'autre où tu prends tes notes de meeting partagées avec les gens qui sont dans le FaceTime en temps réel. T'as un mec qui est sur un iPad, il peut être en train de sketcher un truc, toi tu peux être en train de taper un truc. On commence à arriver à un environnement de travail intéressant. Moi ce que j'aimais bien, c'est qu'ils ont montré des applications aussi B2B.
Ouais.
Donc ils ont montré à quel point ce casque pouvait être utile pour les chaînes de fabrication dans les usines, c'est-à-dire pour se représenter la position du robot que tu es en train de concevoir sur une chaîne de fabrication, son fonctionnement dans un environnement réel, puisque tu vois la réalité et tu y incrustes une partie de virtualité. Donc
tu peux
tourner
autour, tu peux vraiment...
Ça ressemble à une réalité augmentée, sauf que tu peux appréhender l'espace, tu peux tourner autour, tu peux... Voilà. Et ils ont montré des applications médicales, évidemment. C'est top.
Et même juste pour de la bureautique, il faut bien comprendre que comme tu peux interagir avec tout, tu peux tout redimensionner, la taille de l'écran que tu as en face de toi est infinie. Tu peux l'agrandir devant toi, elle peut prendre toute la hauteur de ta pièce, il n'y a aucun problème, ce qui est plus compliqué avec un écran 27 pouces.
Et pour qu'on se rende compte, c'est l'équivalent de deux écrans 4K. T'as 23 ouais, millions de pixels
en termes de résolution.
C'est incroyable. C'est là où tu te dis, bah, t'as plus de barrière d'écran. Quoi.
Ça, j'attends de voir parce que c'est difficile de faire cette comparaison. Apparemment, c'est net. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que comme ils ont le suivi de ton regard, c'est intelligent. C'est-à-dire qu'ils vont concentrer la plupart de la puissance de la puce sur l'endroit où tu regardes.
Et ils ont mis leur puce
M2.
M2 pour le processeur, R1 pour la latence, en fait.
Ouais.
Ouais.
Où ils disent qu'ils arrivent à avoir un taux de latence qui est plus faible que le battement de ton œil.
Ouais.
Ce qui se confirme avec les premiers tests que j'ai regardés. Après la conférence, j'étais à la fois excité et mitigé, parce que quand on a vu le prix déjà, on est tous redescendus d'un étage.
Moi, je trouve pas, hein, effectivement, les gars.
Non, mais quand tu vois toute la technologie, c'est complètement normal. N'importe quelle autre marque ferait ce truc-là avec cette ambition-là, ce serait au moins aussi cher. On est tous d'accord.
Ça serait même plus cher parce que je pense qu'Apple amortit en fait d'autres technologies qu'ils ont depuis longtemps et qu'ils réintègrent là-dedans. Une autre marque devrait forcément s'y mettre. Ça serait compliqué. Donc même en faisabilité. Mais ce que je veux dire, c'est que le positionnement prix, il n'est pas extrêmement différent d'un écran de très haute qualité que tu peux acheter pour chez toi.
D'autant que tu le disais, c'est du M2 à l'intérieur.
Ouais.
C'est un ordinateur en fait.
Mais là on est tout seul. Quand t'achètes un écran pour la famille, t'es 6 à le regarder l'écran.
C'est sûr que c'est des usages
c'est
très différents.
C'est une définition particulière de la famille déjà 6.
Ouais. Oui, c'est une définition du 16e.
C'est sûr choix. Que c'est un budget. Maintenant je trouve qu'il est rassurant parce que c'est pas un jouet en fait. Il commence direct avec un usage professionnel ou pour des gens très, très curieux. Ou pour les développeurs, etc., qui vont commencer à développer des applications dessus, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire qu'on va vraiment prendre le temps de travailler la technologie avant d'en faire un produit grand public qui, là, sera plus abordable, qui sera peut-être un peu moins tech.
Et surtout, parce que la clé dans un écosystème, et on peut pas dire qu'Apple ne sait pas ce que c'est qu'un écosystème, ils le savent mieux que tout le monde, c'est qu'ils utilisent les mêmes technologies que toutes les autres technologies de l'environnement Apple.
Ouais.
Donc tu vas pouvoir, les développeurs vont pouvoir utiliser les technologies qu'ils connaissent. Alors oui, il y a un Vision OS, je crois.
Exactement.
Comme il y a un TV OS, un iPad OS, ouais, etc. Mais le cœur technologique reste le même. D'ailleurs, on voit une volonté affirmée de Apple de voir arriver des jeux dans cet environnement parce que ils font beaucoup d'efforts pour aider les éditeurs de jeux à venir dans cet environnement technologique depuis déjà un bon moment. Et je pense que cette proposition technologique ne demandera pas tant d'efforts que ça aux développeurs pour adapter un certain nombre de choses pour aller vers VisionOS. Et donc du coup, une fois de plus, le seuil critique qui te fait adopter cette technologie va être franchi, je pense, assez facilement.
La relation qu'a Apple avec les développeurs, c'est une force énorme pour plein de raisons. C'est que déjà, souvent, les utilisateurs d'iPhone, etc., de produits Apple, sont plus engagés que le reste, ils sont plus sujets à acheter des apps, à acheter des jeux, etc. Souvent pour les développeurs c'est plus facile de développer pour Apple, Manuel tu le disais, et ils sont plus représentés simplement par la marque. Là, ils vont avoir jusqu'à début 2024 pour commencer à développer des trucs, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont recevoir des kits de développement avec le casque, etc. Donc pour l'instant on a vu quelques features qui sont assez basiques, mais encore une fois c'est plutôt rassurant parce que ça veut dire qu'ils ont pris le temps de faire de vrais usages, de pas vouloir nous en mettre plein la gueule avec des trucs qui sortiront jamais, qui seront jamais prêts, etc. D'ici 2024, il va y avoir des développeurs qui vont travailler dessus et ça va être effectivement assez impressionnant.
Toi, tu dis feature.
Ouais.
Est-ce qu'une feature?
Feature.
Est-ce qu'une feature ratée, c'est une con feature?
C'est une friture.
Ah. Ok.
Les gars, moi, il y a un truc sur lequel je suis quand même plus perplexe, c'est le positionnement pris avec ce que moi je retiens de cette partie de ces annonces. Je retiens plus le CEO de Walt Disney qui vient.
Ça, ça t'a marqué. Hein.
Ben ouais, mais parce qu'en même temps, bon, je suis un gros fan de Disney.
Au moins, il a vu Mickey.
Mais évidemment, mais ouais. Ce que je trouve, ils ont quand même accordé. Tu vois, tu me l'as dit tout à l'heure, on en a parlé. Je te disais, ben, on voit quand même le père de famille, on voit quand même, oui, qui travaille, ok. Mais on voit aussi des usages où à un moment, t'es dans un vaisseau Star Wars pour regarder ton film Star Wars. Il y a quand même eu beaucoup, je trouve, de démos grand public. Et c'est là où je me suis dit, moi, je suis intimement convaincu de l'usage B2B. Évidemment, moi, dans mon utilisation, je vais vous poser après la question de comment est-ce que vous utiliseriez le plus du coup ce produit-là, etc. Mais j'ai eu du mal à comprendre au départ le positionnement en me disant $3,500, ok, je te rejoins, c'est moins même qu'une télé pour cette résolution-là, mais une télé, tu l'utilises à plusieurs en même temps. Et là, j'ai vu beaucoup d'usages grand public.
Ce qui te gêne, c'est qu'on mette du grand public alors que c'est un produit qui est très cher, qui est destiné à des...
Ouais.
Bah en fait, c'est très simple. C'est une conférence développeur.
Oui.
Ce que tu veux montrer, c'est de dire aux développeurs qu'il faut qu'ils passent du temps à développer leur solution pour ce casque-là. Sauf que si tu le fais passer pour un produit niche qui atteindra jamais le grand public...
Ouais, les développeurs se disent « je vais pas, pas développer pour 10 architectes ».
Ils vont jamais investir autant d'argent et de temps pour développer leur truc. Là, tu leur montres que tu vas avoir Disney+, que tu vas avoir des jeux, etc. Ils vont se dire « pour l'instant, je le développe pour un produit qui est assez inaccessible, il y aura que les professionnels, etc. » Mais très bientôt, il y aura un Vision qui sera pas pro.
Et je rappelle,
Attends, c'est intéressant ça.
Bien sûr,
évidemment. Et je rappelle que quand l'iPad est sorti, tout le monde disait
c'est vrai,
c'est pour les architectes, c'est pour les médecins ou les hôpitaux, etc. Mais il y aura pas de qu'est-ce qu'on va foutre avec une tablette.
Vous êtes chiants les gars. À chaque fois, vous me retournez le cerveau.
Mais t'es obligé de montrer que c'est un produit qui est destiné à l'avenir à être grand public.
Pourquoi est-ce qu'il faut démarrer par là, par le B2B souvent? Est-ce que ça aide plus? Est-ce que ça te permet de faire des choses plus grandes pour après, pour après revoir la gamme, mais plutôt de haut en bas plutôt que de bas en haut? C'est toujours plus facile de baisser le prix que de l'augmenter.
Mais c'est surtout que tu as un effet de seuil, c'est-à-dire que tu démarres par le haut avec la démonstration complète de tout ce que ta technologie peut faire.
Ok.
Tu vends à un prix qui est élevé et tu es dans un marché B2B. Un marché B2B, par définition, tes cibles, elles sont quantifiables. Bah, tu vas prendre, je sais pas moi, l'industrie de l'entertainment. Bon, bah, quand tu as fait Walt Disney, bah, les autres vont suivre. Mmh. Tu vas prendre l'industrie médicale. Tu vas prendre trois grands centres de recherche et hôpitaux qui vont faire des trucs fous. Ça va t'amener tous les autres. La bureautique, ils citent Office.
C'est vrai.
Ouais.
C'est vrai qu'on les a vus sur la suite Office. Incroyable.
Ce qui est assez fou. Et en général, ils le font toujours quand ils lancent des nouvelles gammes de produits. Parce qu'ils savent que c'est un standard. Et donc, ils t'intègrent l'environnement standard de travail. Et donc, tu es dans un environnement où tu vas pouvoir percer, avoir du volume et de la valeur.
Okay.
Et après, tu vas redescendre vers le grand public et tu vas enlever des features dont ils n'ont pas besoin, voire... Il y a des features que tu auras amorties par le B2B et que tu pourras sérialiser dans le B2C en baissant tes coûts de fabrication.
Parce que tu augmentes la production. Et...
C'est toujours une pyramide qui descend. Quand un fabricant de téléviseurs commence à proposer de la 8K, bah, tu sais très bien que ce sera d'abord sur des produits ultra haut de gamme. Tu regardes la stratégie de Tesla, c'était d'abord d'aller chercher des célébrités, des gens qui ont les moyens, etc. Et ensuite, tu commences à proposer des modèles Y, des trucs un petit peu moins chers. L'Apple Watch, c'est la stratégie qu'ils ont adoptée.
C'est rigolo parce que si je fais le parallèle avec l'industrie de l'automobile de luxe, Ferrari, Lamborghini, ils font l'inverse. Ils te sortent d'abord première Lamborghini SUV de la gamme, ensuite ils te prennent un Roadster et après
parce
ils
qu'il n'y a pas d'innovation fondamentale.
Ok.
Il n'y a que de l'innovation itérative.
Ok.
Tu vois. Et c'est pas un grand secret. Moi, j'adore Aston Martin.
Ouais.
La DB12 vient de sortir. Super. Est-ce qu'elle est très différente d'une Superleggera ou autre? Bah oui, le design n'est pas tout à fait le même. Oui, ils ont touché, ils l'ont lifté. Oui, il doit y avoir un ou deux trucs de plus. Mais enfin, il n'y a rien de révolutionnaire. là, il crée un truc qui est révolutionnaire. Donc, c'est une nouvelle catégorie.
Okay.
Le mec, il va faire les taxis volants à Séoul. Ils sont en train de construire l'aéroport de taxis volants à côté de l'aéroport dans lequel tu atterris en venant de Paris. Et pour rejoindre le centre de Séoul, tu prendras juste un petit hub, tu fais une station de métro, tu rentres dans un taxi volant, t'es dans Séoul, cœur de ville, et ça te prend pas une heure de voiture. Ils sont en train de le faire en ce moment.
Ah, donc là, tu crées un nouveau marché.
Crées un nouveau marché. Quel est le prix du taxi volant et du service qui va avec, etc. Tu le crées, tu l'inventes, tu le définis. Donc dans l'automobile, c'est différent. L'automobile que tu cites, elle s'apparente à l'industrie du luxe. On te vend de l'appartenance à une petite catégorie de personnes qui peuvent se le payer.
D'accord.
On ne te vend pas une innovation fondamentale.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pour que les gens se rendent bien compte, j'ai regardé quelques tests. C'est ce que je disais tout à l'heure. Après la conférence, j'étais mitigé parce que hyper hypé. Mais il y a un truc qui m'a frappé quand même, c'est qu'on voit jamais personne le porter. À part les pubs.
Ouais.
Tim Cook a jamais porté le casque.
C'est vrai.
Même derrière.
Il n'y a pas eu de démo en live.
Il a des lunettes,
c'est pour ça. Même derrière, il a passé quelques minutes à côté du casque pour la presse, il l'a jamais porté, il l'a jamais touché. Donc moi, ça m'a fait un peu peur parce que j'ai eu peur de... Je me souviens de AirPower, un produit que Apple avait présenté qu'ils n'ont jamais sorti. Ça m'a un peu inquiété, j'ai cru qu'il n'était pas prêt. Et du coup, j'ai regardé les premiers tests des journalistes qui étaient là-bas et apparemment, c'est exceptionnel. C'est l'eye tracking est hyper précis. Les gestes avec les mains, où qu'elles soient, apparemment, pareil, c'est impressionnant.
Ça fait peur.
Il n'y a pas de latence. C'est la meilleure vision de ton environnement depuis le casque. C'est le truc le plus net, fluide qui existe. Donc apparemment, c'est déjà le meilleur casque de réalité mixte qui soit sorti. Maintenant que c'est dit, est-ce que vous voyez demain venir au travail et bosser là-dessus?
Ah mais moi les gars, je dis merci Apple, hein, parce que tous mes meetings avec vous, je mets un casque.
On aura juste un avatar.
Ce qui est génial,
vous verrez mes yeux, mais moi je ferai complètement autre chose. Hein.
Putain, pour une fois, on aura l'impression que tu nous regardes en fait, et que tu t'intéresses au call.
Mais je trouve ça cool parce qu'il y aura plus de trucs d'apparence. Ça me fait toujours chier en call de me dire, je suis pas coiffé, là machin, j'ai mon truc, machin. Je trouve ça trop bien.
Moi, c'est ma limite. Hein. Moi, je pense que je vais. Ah non, moi, je vais continuer à faire des FaceTime normaux. Hein.
Ok.
Bon, tu peux faire un FaceTime avec ton casque et il y aura une représentation de toi.
Super.
C'est quoi que vous rêvez de faire là? Vous l'avez maintenant? Vous faites quoi en premier?
Je mets un film.
Ah ouais?
Je mets un film, je me mets une petite scène. Je m'immerge complètement dans une forêt, un truc comme ça. Je me mets un film d'horreur avec un écran géant.
Il adore les films d'horreur, Léo, il faut le dire. On partage une bibliothèque de films ensemble. C'est assez, assez taré.
Ah ouais, non.
À chaque fois que je vais regarder les films qu'il ajoute, je fais putain, mais je vais toujours pas dormir de la nuit si je regarde ça.
Moi, je veux regarder Netflix dans mon casque.
Bah ouais, non, mais bah, t'as raison.
On a le droit de le dire, je sais pas, j'allais pas le dire.
Bah, j'ai fait une vidéo dessus. Hein,
ouais, je sais, mais j'allais pas en rajouter une couche.
Et d'ailleurs.
Mais il regarde pas tes vidéos. Il n'ose pas te le dire.
C'est vrai, je le sais. Ah, une vidéo de moi, en fait. D'ailleurs, l'exemple dans l'avion, moi, je le ferais. Hein. Je prendrais mon casque dans l'avion.
Ah, mais moi, c'est sûr.
Incroyable.
Oui, bien sûr.
Et vous?
Moi, j'ai quand même hâte de le mettre pour bosser.
Ouais.
L'essentiel de mon boulot, c'est quand même de discuter avec des gens.
Mm-hmm.
Je passe énormément de temps dans des calls et à envoyer des emails. Mm-hmm. C'est une autre configuration de travail qui m'intéresse.
Vous imaginez un bureau sans écran, sans ordi, alors juste le casque posé?
C'est ce que j'allais dire. Du coup, t'as un iMac sur ton bureau, Manuel.
Tu l'enlèves?
Est-ce que tu l'enlèves et tu t'imagines avec juste le casque?
Non, non, c'est une autre config de travail.
Ah, ok.
Et d'ailleurs, eux-mêmes, dans la conf, montrent la combinaison avec Continuity, je crois.
Ça, c'est ouf.
Je sais pas si c'est vraiment cette technologie ou pas.
Ouais,
mais
je crois que c'est ça.
Mais il me semble que oui. Parce que c'était la première question que je me suis posée quand j'ai commencé à avoir le casque pendant la conf. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu regardes ton Mac avec le casque.
Mmh.
Et c'est vachement intéressant, tu peux en parler, Léo.
Bah, en fait, du coup...
ils l'ont prévu.
Tu auras toujours ton écran qui sera là, mais tu pourras connecter ton casque avec ton écran pour avoir l'interface de ton Mac, pareil, sur un écran réalité augmentée.
Dans ton casque.
Dans ton casque, que tu pourras mettre sur la droite de ton iMac pour avoir un écran étirable à l'infini avec lequel tu peux interagir, et tu pourras taper avec ton vrai clavier.
Ouais, ça c'est... Mais je suis impatient, pareil, d'être un peu en mode de boulot, créa, configuré. Moi, j'avais une première question, c'était est-ce que je pourrais faire un Twitch avec ce produit.
Ouais, là, je pense que tu vas comment est-ce que un peu.
T'imagines, je partage ma propre image en avatar avec le fond vert et du coup, t'as mon écran qui est enregistré. Le vrai truc que je veux tester, parce que vous savez que j'adore l'ambiance un peu olfactive avec la bougie, l'ambiance avec la musique. Je suis impatient de le mettre dans un autre contexte, dans une forêt, devant une plage. Tu vois, et je me dis, putain, juste avec une fenêtre d'ouverte, est-ce que ça sera assez bien fait pour me captiver au point que j'y crois.
Je pense que
voilà, c'est vraiment ça que j'ai eu comme mauvaise expérience avec l'Oculus, quoi. J'avais pas réussi à ça.
D'être à la plage avec mon casque et de me mettre dans une forêt.
non, tu prends une photo de ton bureau.
Ouais.
Ça serait génial.
Il y a une batterie, tu peux être sur un transat. Hein.
Ah bah oui, bien sûr.
Deux heures, mais oui, tu peux.
Ça suffit.
Ça suffit. On fait des choses en deux heures.
Tu peux être sur un transat. J'avoue que je suis...
Léo, il bouillonne.
Je suis hyper hypé, c'est trop loin 2024 et j'habite pas aux États-Unis.
Non, mais ça, c'est pas un problème. Mais il faut laisser le temps pour que les développeurs, ils développent des trucs, etc. Non, je trouve que timing parfait, annonce parfaite, c'est maintenant qu'il fallait annoncer.
Ah ouais.
Ils ont laissé les autres se planter. On pense à Meta...
Bon courage.
Voilà.
Moi, je suis pas d'accord avec vous là-dessus. Je pense que c'est une aubaine pour eux. C'est une aubaine parce que les gens, en général, Apple montre la voie. Les gens se disent ah, c'est pas trop con comme technologie. Ça donne un peu envie. J'ai pas les moyens pour acheter un casque à 3500 balles en fait. Ah, le Quest. Oh bah ça a l'air intéressant. Alors que ça existe depuis des années. Moi, j'en ai un. Je sais que Romain t'en a un aussi. Je l'utilise pas souvent, mais à chaque fois que j'utilise, c'est une super expérience.
Ouais, c'est cool.
Et j'ai envie de le faire tester à tout le monde. Donc je pense que c'est une aubaine pour Meta. Et d'ailleurs, merci pour les travaux, parce qu'ils ont quand même montré beaucoup de choses. Ils ont un peu montré la voie. Ils ont aussi montré ce qu'il fallait pas faire. Et qu'Apple ne fera pas.
Quand tu mets le Vision Pro, tu te dis, t'as pas envie de revenir dans Minecraft.
C'est un peu ça, je pense.
Ça, c'est possible. Mais j'ai trop hâte. J'ai surtout hâte de voir à quel point, pour le divertissement, pour les films, etc., j'ai aucun souci là-dessus. Je pense que c'est une expérience que je vais kiffer. J'ai hâte de voir à quel point je vais bosser avec, quand même. C'est le truc sur lequel je suis moins convaincu, parce que c'est une expérience que je connais pas, pour le coup. Vraiment, si j'arrive, genre à faire du Final Cut.
Mais c'est là où je trouve qu'il y a eu d'autres annonces qui ont été vraiment complémentaires avec cette grosse annonce à la fin. Je pense par exemple à l'appairage beaucoup plus facile avec les AirPods pour switcher d'un device à un autre. Effectivement, si tu passes de ton iMac où tu mets ta musique et après finalement tu sélectionnes un autre contenu vidéo,
c'était
dans ton...
censé exister.
Ouais, ça n'a jamais trop marché.
Il y a une espèce de latence très désagréable. Ça marche, hein. Mais ce qui est chiant, c'est la latence.
Tu le tentes pas en lieu public, hein, quand même. Moi, je me suis déjà en lieu public. Tu lances ton truc, tu te dis oui, c'est appairé. T'as le logo, mais en fait, non.
Tu lances quoi?
Bah, même de la musique, quand tu lances Patrick Sébastien dans un avion, c'est toujours compliqué.
Oui, c'est. Oui. Bah, voilà. On comprend pas. Bientôt, tu pourras regarder le clip dans ton casque.
Ah, voilà.
Et donc, ils vont améliorer ça. Moi, je trouve que le reste de la conf m'a pas,
c'était pas fou.
M'a pas estomaqué. Je pense qu'ils en ont gardé sous le coude pour la keynote parce qu'ils savaient qu'ils avaient ce gros truc à côté. Mais il y a quand même plein de tout petits trucs que je trouve très, très cool dans iOS 17.
Il y a des boîtes qui vont aussi mourir. Pour
le speech-to-text pour les voice memos.
Ouais,
ça c'est trop bien.
En gros, quand quelqu'un vous appelle et que vous ne répondez pas, ce que je fais toujours, il commence à enregistrer le message pour votre messagerie et en fait vous voyez la retranscription écrite en direct. Donc si c'est quelqu'un si c'est un spam, vous voyez que c'est un spam, vous décrochez pas. Si c'est quelqu'un, vous aviez pas son numéro, etc., il commence à vous parler, vous avez envie de prendre l'appel, vous pouvez répondre pendant qu'il est en train de vous laisser un message vocal. Donc ça c'est incroyable.
Si c'est quelqu'un que vous connaissez mais qui vous dit un truc pas intéressant,
vous pouvez ne pas décrocher.
Ne répondez pas.
Voilà. Et du coup, je pense que ça va être ma stratégie. Je vais jamais décrocher à personne. Je vais attendre qu'il laisse son message vocal. Et là, peut-être, je prendrai.
Alors que tu tu peux même attendre, enfin, tu peux même voir le début du message et décider d'interrompre la messagerie et de répondre.
Oui.
Je vais tellement m'amuser. Léo, je suis super emmerdé pour toi. Non, bon, j'avais un truc urgent.
Toi, je vais te bloquer.
Ouais, ouais, Romain, qu'est-ce qu'il y a pour le script, tu peux m'envoyer ça.
Je vais te bloquer.
Et du coup, ça leur a permis aussi de le faire pour les messages vocaux par SMS.
Les messages vocaux, mais en fait, il faut arrêter d'en faire.
Ça, on en a déjà parlé. Hein.
Ça, pareil, je bloque tous mes potes qui envoient des messages vocaux comme ça.
Bah, maintenant, vous aurez le texte si vous avez la flemme d'écouter.
Enfin.
Et ça, Laurent Searchable, et etc., etc.
Vous n'avez pas à écouter leur voix de merde. Et Emmanuel, il y a un truc que tu as kiffé, toi, c'est le partage de contact.
Ah oui.
Après, j'allais en parler, moi, j'ai adoré.
C'est une espèce de revamping d'une vieille fonction qui était, je pense, de BlackBerry, qui était le bump.
Le bump.
Bump, ouais, c'était ça.
Tu
collais deux téléphones ensemble qui se connaissaient pas, et puis voilà.
Partage de vicam. Ouais,
ouais. Très mauvais nom de boîte, si je peux me permettre.
C'est pas faux. Et donc, moi, je trouve que ça va être hyper pratique. Ça va être hyper bien parce que, aujourd'hui, c'est hyper relou, tu vois.
T'es
obligé de filer ton iPhone à quelqu'un.
Tu vas sur ta fiche contact, voilà.
Tu fais AirDrop, tu lui demandes de l'activer pour
ça
tout le monde.
Ça envoie les infos que tu veux pas envoyer.
Voilà, c'est ça.
Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que les gens connaissent tellement pas cette fonctionnalité, le Share Contact.
Ouais.
Donc, tu vas dans ta propre fiche, tu fais Share Contact. Maintenant, depuis iOS 16, depuis que tu fais Share Contact, tu peux choisir les champs
que tu
partages ou pas.
Ok.
Donc, ça évite d'avoir le code pour entrer chez toi, l'anniversaire d'anniversaire. Clair.
Pour expliquer aux gens, du coup, maintenant, avec iOS 17 qui sortira à la rentrée, en fait, vous mettez votre iPhone au-dessus de l'iPhone de la personne à qui vous voulez partager votre contact, et automatiquement, il y a une super animation d'explosion, de transition qui s'affiche, et ça lui envoie, ça partage les deux contacts.
Très pratique. Il n'y a plus aucun intérêt à avoir un Android, même s'il n'y en avait déjà aucun.
C'est vrai.
Je suis impatient. J'ai vraiment trop envie de l'avoir.
Moi, j'hésite sincèrement à me plonger dans un coma artificiel jusqu'à, je vise mars 2024 peut-être, pour que ce soit dispo en Europe. Sinon, débranchez-moi avant, si possible, si ça sort. Parce que sincèrement, je sais pas comment je me suis levé ce matin.
J'espère qu'ils vont faire une offre un peu comme à Fleloup. Une deuxième paire pour 1€ de plus.
Ah ouais.
Ça serait bien, ça.
Ouais. Comme ça, hop, dès que l'autre, il y en a un qui a plus de batterie.
Bam.
Tu sors l'autre dans l'avion.
Et c'est surtout que j'avais aussi vu la fonctionnalité pour regarder un contenu ou un écran en même temps. Tu sais, à plusieurs. Tu peux partager maintenant ce que tu es en train de regarder. Donc ça, je pense que c'est une fonctionnalité qui va arriver aussi sur le Vision Pro. Donc tu pourras vraiment être à plusieurs avec ton Vision Pro et regarder un film.
Le ShareView.
Ouais.
Bah parce que c'est dans iOS tu l'as.
Bien
en
sûr.
Fait. Donc si tu lances un film sur ton Vision Pro, tu peux faire un ShareView avec un pote qui a aussi le Vision Pro et vous regardez le même film au même moment.
Peut-être même que on est tous les deux dans l'avion.
Ça va faire chez Netflix.
Peut-être même
avec
que
le partage de.
Tu pourras
de
te
compte.
Mettre dans une salle de cinéma et tu le verras à côté toi dans le.
Ouais, oh ouais, cinéma. Mais c'est sûr.
Tu t'assieds pas à côté de moi, c'est mort.
Dans le ShareView, c'est vachement bien parce que tu peux regarder un film. Je sais pas si vous l'avez déjà fait.
Ouais.
Ouais.
En même temps avec des potes.
En même temps.
Et avoir un FaceTime.
Ouais. Bah là, ce sera un avatar du coup.
Voilà.
Bon, bah avant janvier,
hâte de nous voir tous les trois au bureau, dans la même pièce
avec
des casques. Mais ce qui est trop bien avec la réalité mixte, c'est que t'es pas forcément plongé dans un environnement virtuel. Tu peux être dans la pièce. C'est juste que par-dessus la réalité, tu vois des fenêtres.
On savait déjà que Romain avait un pet au casque.
Ouais.
Ça va être top.
C'est une bonne fin.
Salut.
La bise.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.